Je suis heureux de prendre la parole après l'exposé si riche de M. Donquier, parce que, vous le verrez, le sujet dont je vais vous parler est parallèle. Parallèle au point de vue déjà chronologique, parce que Filippo Neri meurt juste 2 ans après San Felice da Cantalice, et puis parce que une grande partie des éléments que nous retrouvons chez ce saint se retrouve également dans l'ensemble des biographies et des frères qui participent à la vie de l'oratoire. Je dois commencer d'une certaine manière par mieux justifier le choix de cette simplicitas. D'abord, je l'ai dit ce matin, ce terme vient des rapports même des frères de la congrégation de l'oratoire, et c'est l'un des grands termes qui peuvent définir ce grand travail de réforme qui est fait pendant le pontificat de ces trois papes qui vient d'être évoqué. Mais il y a un problème qu'il faut aborder, c'est-à-dire, est-ce que la simplicité, c'est vraiment l'une des grandes vertus, disons, classiques de la tradition chrétienne? Là, nous avons tout de suite un problème sérieux d'exégèse, puisque le passage des évangiles le plus apte à manifester l'importance de cette vertu est quand même douteux. C'est Matthieu 10:16, « Excebit vos sicutoves in medio luporum ». Donc, je vous envoie comme des brebis parmi le loup, mais après, il y a la difficulté. « Estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbe ». C'est-à-dire que la simplicité des colombes est quand même conjointe à la prudence des serpents. Et comme le serpent est en même temps le signe même du diable, hein, cette liaison, ce parallélisme qui est proposé par les évangiles a toujours gêné les représentations de la simplicitas. Et à mon sens, je ne suis pas vraiment un bibliste, mais j'essaye de lire, et à mon sens, ce qui a fait le succès de cette simplicitas des colombes, ce n'est pas en réalité le passage de l'évangile de Matthieu, mais plutôt le moment où cette exégèse de ce passage s'est croisée avec le grand succès, grâce surtout à la mystique, et donc un peu plus tard, notamment Jean de la Croix, dans les commentaires du Cantique des Cantiques. C'est vrai qu'il y avait une très grande tradition de l'exégèse du Cantique des Cantiques déjà au Moyen-Âge, mais pour la période qui nous concerne, c'était plutôt, je dirais, des commentaires qui ne se liaient pas à la simplicitas, mais plutôt en général à la théorie de l'amour mystique. D'abord parce que dans le Cantique des Cantiques, c'est comme les oiseaux, les colombes, in foraminibus petre, donc la vie cachée, la vie retirée, la vie aussi de sacrifices comme les pierres, le désert, etc. Donc il y a quelque chose qu'il faut évidemment prendre en considération. Je dirais que plutôt, sur un autre plan, c'est plutôt l'Épître aux Philippiens 2 qui peut nous aider, mais là aussi, ça concerne plutôt la vie communautaire des frères, puisqu'on dit au verset 14 que vous devez être « ut citis sine querela et simplices filii Dei ». Donc, vivez entre vous sans soulever des contentieux, des querelles, et vivez comme des simples fils de Dieu. C'est plutôt donc Saint Paul, à mon sens, que le passage de Matthieu qui va nous être utile. Et c'est bien les Philippiens qui sont cités par Saint Augustin dans son De perfectione justitiae hominis. Ut sitis irreprensibilis et simplices sic ut fili Dei immaculati. Là, c'est une manière de Saint Augustin de le souligner, c'est-à-dire il ajoute l'immaculati, c'est-à-dire la pureté qui va toujours avec la simplicitas. Mais tout cela est vraiment minime, hein, c'est des bribes d'une certaine manière, et la simplicitas ne serait pas, à mon sens, au XVIe siècle si importante s'il n'y avait pas eu, et là c'est aussi un mérite du livre de Anne Piéjus, s'il n'y avait pas eu un grand texte et un nom qui doit être mis au centre de notre réflexion aujourd'hui, c'est-à-dire il libro di frate Hieronimo da Ferrara della semplicità della vita cristiana, c'est-à-dire le livre de Jérôme Savonarola sur la simplicité de la vie chrétienne. Nous avons, c'est un texte qui est publié partout en Europe pendant le XVIe siècle. Déjà, il paraît en 1496 en latin et puis en italien. Mais les éditions se suivent. D'abord, Venise 1504 et Florence 1509, Paris 1510 et 11, Venise 1512, Florence 1529, Venise encore dans les années 40, Köln 1550, Lyon 1638. C'est vraiment un grand texte. Il faudrait du reste creuser un peu plus dans ce domaine. Mais certes, quand Anne Piéjus nous a montré dans son livre que Filippo Neri appartenait à une famille florentine dans laquelle le culte, la tradition de Savonarola était très présente, eh bien, là, nous avons une confirmation. Donc, je crois qu'à la fin du XVIe, et nous verrons, il y a d'autres points en commun, ce retour, grâce aux familles exilées de Florentin, des Simplicitate Vitae Christiane de Savonarola, et là, il faut penser aussi à tout le contexte européen, il y a même des reprises du côté d'Erasme qu'il faudrait étudier. Mais enfin, restons à ce texte. Et je rappellerai simplement le préambule de ce texte de Savonarola, où il dit qu'il faut vivre in bonitate et in simplicitate cordis. C'est avec cette attitude qu'il faut rechercher Dieu, et il fait tout un long commentaire avec le passage des psaumes « In simplicitate cordis querite illum ». Donc, encore une fois, c'est plutôt les psaumes que les évangiles qui vont nous aider. C'est un texte très important auquel il faut ajouter, à mon sens, tous ces grands textes qui pensent à la vie chrétienne en partant de l'image de la colombe, et notamment, je citerai le Columba Anime de Lorenzo Davidico. C'est vrai qu'on a placé dans ces derniers temps Lorenzo Davidico du côté d'une crypto-réforme. À mon sens, c'est toujours un auteur, mon maître l'avait casé tout de suite dans le contexte de la grande réforme romaine catholique du XVIe siècle. Eh bien, son texte publié en 1562 à Milan, dont le titre est Columba Anime, nous montre dès les premières pages comment il faut penser à cette idée, à cet emblème de la colombe. Alors, il dit Venite et meditemur, donc allons méditer, quantum domino placeat simplicitas innocentia, quantum displiceat humana malicia. Donc, la simplicitas et l'innocence. C'est un texte très important parce que Encore une fois, ce texte nous montre la continuité, pour ainsi dire, entre l'exégèse des psaumes et la tradition du commentaire du Cantique des Cantiques. Mais je voudrais maintenant venir à un autre élément, c'est-à-dire justement la simplicitas de la tradition de l'oratoire. Et pour ne pas me cantonner à des problèmes, comment dirais-je, simples et résolus, je vais peut-être au cœur du problème et de ses contradictions. Et je veux dire par là que le biographe de Saint-Philippe Neri, dont je vais m'occuper, c'est un auteur, donc Antonio Gallonio, qui nous présente les plus grandes difficultés d'interprétation, puisque la vie de San Filippo Neri est publiée juste d'abord en latin et puis en italien, juste après la mort de Filippo Neri. C'est un grand texte de 400 pages, publié à Rome en 1601, donc 6 ans après la mort du saint, et quelques mois avant, le texte latin avait paru. Mais c'est Antonio Gallonio qui appartient à l'oratoire, se présente d'abord en 1591 avec ce traité des instruments de martyr et avec des gravures d'un grand peintre et graveur de l'époque, Antonio Tempesta, 1555-630. C'est un texte absolument fondamental pour comprendre, je dirais, l'apologétique de la réforme chrétienne ou contre-réforme ou église tridentine, surtout parce qu'il circule en latin un peu partout en Europe. D'abord publié à la Vallicella en latin en 1594, et puis republié à Köln, à Cologne, en 1602. Et si nous voyons, la continuité de ce texte entre les publications de la vie de Filippo Neri et la publication latine ou italienne du traité des instruments de martyr, eh bien, nous voyons que ce mélange de simplicité et de finesse exquise de l'ostension du corps martyrisé typique de l'époque baroque est constantement entremêlé, de sorte que nous ne savons plus, j'aurais bien voulu aimer dire, voilà, le XVIe siècle se termine avec un triomphe de la simplicitas, pas vraiment, hein. Chez Gallonio, il y a les deux. En même temps, il y a ce triomphe, nous le verrons, de la simplicitas, mais aussi l'ostension du corps martyrisé, qui est typique de l'âge baroque. Nous verrons des exemples des diapositives. Mais je voudrais d'abord vous témoigner de cette alternance, c'est-à-dire que, par exemple, la même année où le traité des instruments de martyr paraît, donc à Mayence, en 1602, eh bien, la même année, nous avons une réimpression de la Vita del Beato Filippo Neri à Rome, et puis après à Naples, 1608, mais en même temps, nous aurons les éditions successives du traité des instruments de martyr. Et là, je voudrais d'abord partir par un élément qui va peut-être un peu déranger un exposé qui n'est pas apologétique, mais qui voudrait être lu dans le contexte de la simplicité. C'est-à-dire le fait que ces instruments de martyr, là, si vous voulez, vous avez l'édition française, mais comme elle est récente, je n'ai pas pu prendre les images, mais parce qu'elles sont protégées par le droit d'auteur. Donc, j'ai dû les tirer par un ancien exemplaire. J'y travaille depuis 30 ans. Donc, c'était encore l'époque où on faisait les microfilms. Et j'ai dû tirer des éléments de ces microfilms. Alors, il y a un clair-obscur qui n'est pas trop digne d'un historien de l'art, mais les exemples sont suffisamment clairs. Or, d'un côté, c'est vrai qu'il y a le travail de Tempesta, on le voit avec ses architectures archéologiques, et là aussi, il y a quelque chose d'exquis au point de vue du baroque, c'est-à-dire martyrs et archéologie. Dommage que Eugenio d'Ors n'a pas connu ce texte qui a circulé, qui ne circulait pas chez les historiens de l'art jusqu'à des temps récents, parce que c'est quelque chose d'absolument magnifique. Je crois que Federico Zeri et Mario Prats seraient ravis de penser à tout cela. Et vous voyez déjà la fuite prospectique du fond, et avec tous ces temples païens et chrétiens, mais aussi les roues et qui passent sur des clous afin que la torture soit plus aiguë. Là encore, vous voyez notre martyr qu'on laisse tomber sur des petites pyramides aiguës, de sorte qu'il puisse se casser les os. Hein, je traduis, vous avez à côté le texte italien. Alors, on peut imaginer que le texte italien lui-même soit dicté par Gallonio. Évidemment, l'image, non. Mais les deux étaient tout à fait correspondants. Ici, malheureusement, les choses se voient très mal, mais ce qui me semble important, c'est le fait qu'on a presque besoin de remplir l'espace de torture. Il y a trois types différents. Il y a un martyr qui est écrasé sous des... on le voit mal, mais il y a comme des rotami, c'est-à-dire des gravats. Des gravats, souvent, sont des gravats parsemés de cendres et brûlants, etc. Et puis, il y a des plaies un peu partout. Venons à l'autre, ça c'est plus classique, c'est-à-dire des gens qui sont cuits tout simplement dans l'huile portée au maximum des flammes autour. Encore une fois, derrière, je dirais, la beauté impassible des architectures, des pyramides, des arts, etc., des balcons de palais. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va de A à H et on a ramassé dans un espace très petit toutes sortes de martyrs. On le voit malheureusement très mal, mais je pourrais vous lire quelques légendes des textes de l'édition française. Le texte a été traduit au commencement du XXe siècle en français. Alors, par exemple, martyr suspendu au cheval de bois et brûlé par la flamme des torches, martyr suspendu par les pieds à une poulie et torturé de la même façon, ou encore martyr dont les membres ont été coupés et mis dans une chaudière, martyr dans le taureau d'airain, martyr placé sur le lit de fer et rôti. La traduction est littérale, le texte italien dit à peu près la même chose. Et je voudrais venir, parce que je n'aime pas non plus insister sur ces détails, mais par exemple, ce texte, ce passage, c'est un martyr lié par chaque jambe au sommet de deux arbres voisins, qui sont à leur tour tenus ensemble par une corde, que l'on a courbé et rapproché de force et qui seront bientôt relâché brusquement, de sorte que le martyr soit écartelé par les jambes. Et en bas, martyr torturé au moyen de roseaux effilés introduits sous les ongles, comme François Xavier, de leurs mains et de leurs pieds, et etc., etc. Et je vais terminer par cet exemple qui semble presque, mais là je parle sous le contrôle de Victor Stroikita, le cheval dans le fond semble presque un cheval de Caravage, un cheval qui prend la fuite et qui entraîne là un martyr, mais on voit en tout cas déjà l'esprit du siècle, ce type de chevaux en mouvement. Bon, je ne vais pas faire le commentaire. Tout ce que je peux vous dire là, c'est la pyramide de Chestia qui semble apparaître à la fin, au sommet de, et donc dans le fond, dans les lontani de cette mise en acte. Puis, ce qui est absolument une espèce d'emblème triomphal de l'apologétique baroque, instrument de martyr tous ensemble. Voilà, ça c'est le. C'est un vrai emblème avec un résumé donc des éléments des traités de martyrs. Alors, comment mettre ensemble ce type d'apologétique qui se fait jour déjà en 1591 avec ce rêve de Simplicité? Eh bien, je vais vous dire tout de suite quelle est ma thèse. Je fais une petite paraphrase d'un texte célèbre de Gabriele D'Annunzio, Stabat nudat estas, chez D'Annunzio. Moi, je dirais, et c'est quelque chose qu'il faut mieux méditer pour la fin du XVIe, Stabat nuda veritas. On termine, c'est une époque dans laquelle, si on prend surtout ce témoin très compliqué comme Antonio Gallonio l'est, on termine avec tout ce qu'on a eu au XVIe siècle, l'éloge, la présence du décorum, du décor, de la dignitas, du besoin d'être appareillé pour apparaître en société. Tout cela s'en va. Pensez au portrait de Castiglione fait par Raphaël, le courtisan, les traités des bonnes manières, le besoin d'apparaître en société par des protocoles précis, marqués par des emblèmes, etc. Tout cela s'en va. Je dirais que cette espèce de nudité introduite par les martyrs est, je dirais, le correspondant, presque l'effet miroir de cette simplicitas morum qui est introduite par notamment l'oratoire. Et Gallonio le montre bien. Et il y a quelque chose qui est vraiment à la racine de la nouveauté baroque. On a insisté, bien sûr, sur les aspects un peu étouffants et étouffés du baroque, sur la richesse, mais quand on reste justement au Caravage, on voit bien que les deux choses vont de pair. Il y a, on l'a vu encore ce matin avec cette espèce de tzigane, mais aussi les pèlerins, je le répète, de la Madonna di Loreto Sant'Agostino, pieds nus, engenouillés avec leur modestie, leur saleté, tout cela. Eh bien, là, je crois, on est vraiment au cœur d'un problème qu'on a trop facilement liquidé en disant, bon, là, c'est du baroque. Non, il y a quelque chose qu'il faut mieux étudier. Et Giacomo Iori, qui est présent, a fait du reste un très beau livre sur le critère d'évidence. Il y a une nouvelle évidence qui se fait jour et qui est portée en même temps par ce dépouillement à la lettre d'une manière de vivre, mais aussi un corps totalement dépouillé qui se présente dans sa nudité. Et du reste, un autre auteur, Giglio, Juan Andrea Giglio, qui publie le dialogue dans lequel on traite des abus des peintres autour de l'invention des histoires, eh bien, il nous dit, je vous lis la traduction française, le peintre montrerait bien mieux la force de l'art en le faisant, c'est-à-dire ici il se réfère au Christ flagellé, accablé, ensanglanté, couvert de plaies et de crachats, dénudé, déformé, livide, ailé, de manière à ce qu'il n'ait plus forme humaine. Assurément, ce serait une nouveauté et une bonne chose que de voir un Christ en croix transformé par les plaies, les crachats, le sang. Et encore, Saint Blaise écharné, lacéré par les peignes, Sébastien criblé de flèches, rassemblé un porc épi. Laurent sur le gris, desséché, brûlé, crevé, lacéré et déformé. Voilà une nouvelle manière de penser à l'apologétique. Il ne s'agit pas nécessairement de multiplier les mots, mais au contraire d'enlever tout ce qui est le décor, l'appareil, et laisser dans sa nudité, qui concerne non seulement le saint, vous l'avez vu pour le Christ, mais Dieu même. Hein. Toujours Giglio, qui a fait un autre traité magnifique sur les parties corporelles qu'on attribue à Dieu dans l'Écriture sainte, et notamment l'Ancien Testament, eh bien, il nous fait toute une description sur les paupières de Dieu, le dos ou bien la nuque de Dieu, les parties postérieures de Dieu, jusqu'aux souliers de Dieu, appelés dans l'Écriture calcéamenta. Eh bien, Mario Prats a une formule magnifique pour décrire tout cela. Elle seule qui a compris, me semble-t-il, la richesse de cette chose étrange et qui peut même nous gêner. Il dit « La qualité d'énergie sauvage, luxuriante et privée de goût que Voltaire reconnut chez Shakespeare est celle-là même que reconnurent dans l'art baroque ses premiers défenseurs. » C'est-à-dire cette espèce d'état premier de la vie humaine, hein, une incarnation à la Tertullienne, c'est-à-dire des carnes Christi. Je ne vais pas insister sur ce point, mais je crois que on comprendra mieux maintenant, me semble-t-il, dans le peu de temps qui me reste, l'effort immense pour trouver des racines solides à la simplicitas quand l'autre versant était occupé par cette représentation. Parce que si tout était effacé, la simplicitas serait une espèce, je dirais, de tautologie. Mais au contraire, c'est du fait que de l'autre côté, et chez les mêmes auteurs, il y a une conscience si nouvelle du corps humain, qui naît de l'anatomie de Vézal, n'oublions pas. S'il n'y avait pas eu l'anatomie de Vézal, et puis tous les traités anatomiques et représentations du corps humain qui se suivent à partir de la moitié du XVIe siècle, bien on n'aurait pas cette conscience nouvelle du corps humain. Et alors, comment retrouver une simplicitas capable de faire face à cette nouvelle représentation? Et je viendrai alors maintenant à cette vie de Gallonio, la vie de Filippo Neri. Bien sûr, nous l'avons vu dans l'exposé qui m'a précédé, les vies des saints ou de ceux qui doivent devenir être reçus, acceptés comme saints, doivent prévoir, comme on le dit encore aujourd'hui, vie, mort et miracle, et même à l'époque, c'était plutôt vie, miracle et mort. Et il faut surtout qu'il y ait beaucoup de miracles en vie. Et donc, Gallonio prend le système avec beaucoup de précision et de rigueur. Tous les 10 pages, il y a un paragraphe concernant le miracle de Filippo Neri. Donc, évidemment, il y a des éléments qui sont introduits, nous l'avons évoqué ce matin, grâce au texte de Jean de Lumont. Il y a le privilège des larmes. Et nous vivons dans une époque sans larmes, c'est Kafka qui l'a remarqué. Et le Roland Barthes aussi l'a dit, hein, nous n'avons plus le privilège des larmes. Et on sait très bien que Ignace de Loyola comptait ses larmes. Il était très inquiet quand il n'y avait pas de larmes avant la messe ou après la messe. Il y a toute une génération au XVIe qui est nourrie par les larmes. Et on l'a vu chez Cantalice, mais chez Filippo Neri est la même chose. Alors, tout de suite au commencement, pour l'année C'est une biographie chronologique, donc un annal, par exemple. Et alors, en 1542, il vend tous les livres. Autre trait qu'il faut remarquer, le rôle des livres. Alors, dans la vie de Philippe Poneri, on dit qu'il vend tous les livres et il se nourrit de larmes, se nourrissant du pain des larmes. Page 9. Mais surtout, ce n'est pas Delumont ou d'autres qui ont remarqué cette présence, pour ainsi dire, double présence à Rome de Loyola et de Filippo Neri, mais déjà dans la vie de Gallonio, tout ça est souligné dès le commencement, c'est-à-dire que on dit de Filippo Neri, era tanta la moltitudine di quelli che gli mandava alle religioni, c'est-à-dire adressé aux ordres religieux. Ce n'est pas qu'il envoyait aux religions, au sens de religion non chrétienne, non, aux ordres religieux, che il beato Ignazio, autore della Compagnia di Gesù, lo chiamava festevolmente la campana, c'est-à-dire la clochette de Dieu, parce que Philippe Neri attirait beaucoup de monde à la conversion. Et donc Loyola l'appelait la clochette de Dieu. Et à son tour, Filippo, parlando della santità del beato Ignazio, diceva che tale era e tanta la sua bellezza dentro, donc la beauté de l'intérieur, venant de l'intérieur, qui manifestait ses signes dans son visage. Si scorgevano i segnali nel viso, il quale, dont le visage, luceva e mandava fuori, come esso affermava di aver veduto, raggi di chiarità e di splendore. Donc Philippe Neri se fait le témoin de la sainteté de Loyola avec ses rayons de clarté et de splendeur qui émanaient de son visage. Et ceci tout de suite au commencement de la biographie. Gallonio vise à lier d'emblée les deux grands personnages de la Rome de la moitié du XVIe siècle. Et je voudrais aussi souligner l'autre aspect qui a donné le titre à mon exposé, au-delà encore des extases, des raptes, etc., dont des miracles, des prophéties dont ce livre est plein. Et il dit que dès qu'il est ordonné prêtre, il vient donc à prendre sa résidence à San Girolamo della Carità avec Persiano Rosa et Bonsignore Cacciaguerra, dont il faudrait peut-être donner des profils plus détaillés. Mais leur vie commune était la suivante. Non erano sotto alcuna regola ristretti. Donc il n'y avait pas des règles, ils ne demandent pas à être ordonnés sous une règle, mais ils vivaient entre eux en pleine communauté et liberté, et leur chambre était petite, sans ornement et sans décor spécial. Ils vivaient ensemble avec un grand amour réciproque. Mais parmi les miracles et les guérisons, il y a une qu'il faut absolument souligner, et c'est la guérison de Giovanni Battista Modio, l'un des membres de l'oratoire. Or, ce Giovanni Battista Modio, comme l'auteur nous le dit, est quelqu'un qui avait fait les sue fatiche sopra i cantici del beato Jacopo da Todi. Voilà donc quelqu'un qui avait repris la tradition des laudes de Jacopone da Todi, de sorte que, me semble-t-il, quelque chose de très clair se manifeste en ce moment, à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire les lords de l'oratoire, vous l'avez dit ce matin, vont prendre leurs ressources premières dans la tradition des lodi de Jacopone da Todi, c'est-à-dire dans la tradition franciscaine la plus engagée du côté de la pauvreté, mais ces lodes de Jacopone avaient été publiées par l'éditeur Bonaccorsi, qui était l'éditeur de Savonarola à la fin du XVe, et Modio fait, c'est Savonarole dont nous avons parlé à propos de la perfection, de la simplicité de la vie chrétienne, et en plus, Modio, qui devient l'un des frères de l'oratoire, fait le commentaire détaillé des lodes de Jacopone da Todi. De sorte que, me semble-t-il, maintenant, grâce au chaînon ouvert par le livre de Anne Piéjus, on a toute une tradition, plus, à mon sens, très forte, et qui avait été oubliée, partiellement oubliée, Jacopone, édition Bonaccorsi de Jacopone, grâce à Savonarola, et Savonarola qui vit dans ce même contexte, De Simplicitate Vitae Christiane, Modio, et puis le grand développement de l'oratoire. Donc il y a une tradition profonde de la spiritualité chrétienne venant d'une famille de Saint François. Au fond, quand Alice est dans l'ordre nouveau de cette, même si Aquino est passé de l'autre côté, mais enfin, il y a tout ce renouveau qui se fait au cœur du XVIe siècle. Et ces éléments arrivent à notre, je dirais, point essentiel, c'est-à-dire que dans les nouveaux membres de la congrégation de l'oratoire, nous avons, et le biographe attentif a souligné ça, nous avons Francesco Maria Tarugi da Montepulciano, qui sera après cardinal, Giovanni Battista Modio, nous l'avons vu, mais surtout Filippo Cesare Baronio da Sora. Baronio, qui sera le deuxième responsable de l'oratoire après Filippo Neri pour une année seulement, mais qui va jouer un rôle essentiel dans cette tradition, et nous le verrons à la fin de cet exposé. Je ne vous l'illustre pas, parce que c'est mieux illustré dans le livre d'Anne Piéjus, la description magnifique qui est faite au cœur du livre des rites de cette congrégation de l'oratoire, et notamment des processions dans la visite de cette église. Ce qui existe encore aujourd'hui, c'est une tradition qui a été faite et qui a été mise en place par Filippo Neri. On nous dit toutes les églises de Rome, les sept églises, avec l'interruption qui est faite à midi, et dans laquelle on voit ce peuple, il y a même des gravures qui ont été publiées par Anne Piéjus, finita la messa, rendute a Dio le debite grazie, cantando s'andava, avec anticipation du chantant on s'en allait. Cantando s'andava un qualche luogo dilettevole, donc il n'y a pas seulement les éléments, comment dirais-je, de sacrifice ou de méditation, in qualche luogo dilettevole, normalement c'était a Sant'Onofrio Gianicolo, dove prendeva ciascuno quel poco di cibo, donc quelque chose de très sobre, che per carità era dato loro, donc c'était comme dans la tradition franciscaine, du reste, quelque chose qui est offert, on n'arrive pas avec les provisions et les réserves, mangiandolo in silenzio e con pace. In silenzio e con pace, là aussi, quelque chose de typique de cette tradition de la simplicitas. Puis notre biographe est très attentif à remarquer l'autre grand membre de cette société, c'est-à-dire Giovenale Ancina, dont nous avons eu l'exposé ce matin, de sorte que nous voyons que tout ce livre est fait pour, comment dirais-je, tisser le portrait peint d'une nouvelle géographie de la pietas à la fin du XVIe siècle. Et tout particulièrement, me semble-t-il, parmi, par exemple, les cardinaux qui protègent l'ordre, on a déjà vu ce matin quelques-uns, mais je tiens à souligner le rôle de Sfondrati, qui est vraiment peut-être le plus important des réformateurs. Parmi les visiteurs, il y a aussi le cardinal Paleotti, donc c'est vraiment la grande tradition chrétienne du XVIe, de la deuxième partie du XVIe siècle. Je viens maintenant à mes conclusions et notamment à la partie finale de la vie de Philippe Neri décrite par Gallogno. Il décrit dans ces trois livres d'abord les vertus de Philippe Neri. Alors, dans l'ordre, l'amour de pauvreté, les oraisons, les larmes, la soumission et aussi la prudence. Il faudrait du reste approfondir ce terrain, mais je n'ai pas le temps de le faire. Pourquoi la prudence parmi ces éléments, on le verra. Mais je viens à la conclusion. Il y a un élément qui a donné lieu à la représentation la plus constante de Saint Philippe Neri. D'un côté, c'est les extases, c'est-à-dire il est soulevé du sol quand il célèbre la messe, ou alors la pureté de Philippe est telle qu'il entend chanter les anges. Et alors, tous ces chœurs d'anges qui sonnent quand Saint Philippe est en extase, et c'est presque l'élément iconographique le plus constant dans la représentation au XVIIe siècle de Saint Philippe Neri, mais qui vient d'un détail de la vie de Gallogno. Et puis, comment dans cette apothéose, pour ainsi dire, de la simplicitas, de la humilitas, comment Gallogno nous représente la mort de Filippo Neri? Là, c'est un pari absolument essentiel, parce que comment peut-on représenter, comment va-t-on dépeindre la mort de quelqu'un qui a vécu dans cette espèce de silence, de retraite, de pureté, d'innocence, de patience, etc. Eh bien, il y a un élément, j'ai été surpris en le lisant, je dirais que presque toute la vie, tout ce traité mériterait d'être lu pour ce simple détail, c'est-à-dire que, vous le savez, Torquato Tasso disparu au couvent de Sant'Onofrio, au Janicule, exactement là où la congrégation de l'oratoire venait le dimanche avec tous les fidèles pour leur petite procession et retraite, le 25 avril 1595. Un mois exact après, Philippe Neri quitta ce monde le 25 mai 1595. Eh bien, son biographe, dans le paragraphe dont le titre est « Santamente muore », donc il meurt en sainteté, nous dit, laissez-moi lire dans ce bel italien le texte, au commencement vraiment du paragraphe, nous sommes à la fin du traité, avec la glose au marge nous disant « Tutte queste cose sono notissime e palesi. Tout ce que je vous dis est très connu par tout le monde » est absolument évident. Alors il nous dit, approssimandosi frattanto il tempo che doveva passare di questa vita, diceva ogni mattina la santa messa con tanto affetto che ben si vedeva esso, c'est-à-dire Saint Philippe, savoir que le temps qui lui restait était bref, che il tempo era breve. E nel principio de sa dernière messe, incominciò a riguardar fisso inverso il monte di Sant'Onofrio, quasi come vedesse qualche cosa la quale noi altri non possiamo vedere. Au commencement de sa dernière messe, commença à regarder fixement vers le mont de Sant'Onofrio, le Janicule, le couvent de Sant'Onofrio, quasi comme s'il voyait des choses que nous n'arrivons pas à voir. C'est un détail, à mon sens, admirable, parce que la mort du Tasse, qui avait fait un grand retentissement dans la Rome de ce temps, était là, Sant'Onofrio, justement, le mois précédent. Donc, deux regards de paix qui se réunissent à Saint Onofrio, comme une épigraphe le rappelle aujourd'hui encore. Vous allez à Saint Onofrio maintenant, dérangé par les auto-ambulances, il y a, bon, ce n'est plus la même chose, mais à l'intérieur du couvent, oui, et il y a une petite plaque qui nous dit ici, le Tasse est mort, et ici, Philippe Néri passa ses journées les plus paisibles. Mais ce n'est pas une plaque seulement qui le rappelle, mais c'est aussi Giacomo Leopardi. Dans ses lettres de Rome, Rome qu'il détestait profondément, il dit « Rome me dérange, la conversation est fictive, les gens sont mal polis, mais il suffirait de se rendre à Saint Onofrio et c'est le seul lieu qu'il aimait de Rome pour visiter lequel il serait juste de venir à pied des États-Unis. » C'est ce qu'il, d'Amérique, il dit dans une lettre toujours sur Saint Onofrio. Eh bien, je crois que dans ce petit passage du Tasse, qui était lié à la congrégation par d'autres manières. Je n'ai pas trouvé vraiment des témoignages directs sur San Filippo Neri, mais il y a une magnifique lettre de 94, donc à la veille de sa mort, où le Tasse dit à l'imprimeur de Augsbourg, hein, Marc Welserus, qui l'avait interrogé sur la possibilité de publier la Jérusalem délivrée, le Tasse lui dit non, faites pas cela, moi je suis en train de publier la Jérusalem conquise, ce qu'il fait en effet, et donc il laisse entendre qu'il préférerait éventuellement lui donner ce texte, la Jérusalem me conquistata, mais il dit, en tout cas, pour cela, je ne suis pas le meilleur juge, demandez à Baronio. Donc, nous avons, il renvoie à l'autorité de Cesare Baronio, donc dans cette lettre que je vous ai évoquée à Marc Welser. Et si un emblème, puisque nous avons commencé par les emblèmes des instruments de torture, de martyrio tous ensemble, eh bien, je me suis dit, est-ce que je peux proposer, pour conclure vraiment, un emblème pour la simplicitas qui a réuni ces grands esprits qui ont traversé l'époque moderne, le Tasse, Philippe Néri, Leopardi, eh bien, je crois que oui, c'est le chêne de la Quercia, du couvent de Sant'Onofrio il Gianicolo, où tant de monde a retrouvé sa paix, a retrouvé la simplicité, a retrouvé, je dirais aussi, le bonheur de choisir Rome, et voilà, avec cet emblème qui n'est pas dépeint, parce que le chêne du Gianicolo n'existe plus, coupé comme ça, ça n'existe plus, mais au moins on a encore le privilège de pouvoir imaginer ce lieu admirable où la simplicitas de toute une génération de saints, mais aussi de poètes, a retrouvé son identité. Je vous remercie.
Je remercie très vivement le professeur Ossola pour cette très brillante et très suggestive lecture autour de la vie de Saint-Philippe Neri par Galogno, qui a le courage de remonter à la question de la source et de la signification de ce terme de simplicitas, qui est historiquement attesté, très utilisé, mais qui échappe néanmoins, qui reste difficile à définir. Il me semble qu'un des sujets du débat que nous allons renvoyer après la dernière communication tournera nécessairement autour de cette notion centrale de retour aux origines, retour aux martyrs, retour au franciscanisme des origines dans le cas des Capucins, retour et exaltation de l'Église paléochrétienne et retour aussi d'une certaine manière via ou à Savonarole, à un idéal de la Rome moderne. C'est une hypothèse, mais qu'on pourrait aussi lire à travers une forme adoucie et modernisée de savonarolisme. Et puis je crois que l'évocation de Sant'Onofrio évoquera aussi beaucoup de choses, parce que la question que pose Carlo Ossola le 26 novembre 2014, Chateaubriand la posait dans une lettre à Madame Récamier en disant « Je ne comprends pas où sont les chênes verts de Sant'Onofrio, ma mémoire est meilleure que la vôtre, ce sont des orangers. » à tel point qu'on peut se demander si Goethe, qui lui aussi a séjourné à Sant'Onofrio, ne s'en inspire pas dans Mignon avec le pays des citrons. Enfin, on dit en français le pays des citronniers. En allemand, c'est bien le pays des orangers. En tout cas, actuellement, ce sont des orangers qui sont dans la cour du cloître. Ouais. Et Genevers,